Ça y est, l'écologie est enfin chaque jour à la une des médias. Aucune journée ne se passe sans son lot de rapports, de chiffres, de titres chocs, tous plus inquiétants les uns que les autres. De quoi se sentir aussi impuissant qu'un vermisseau face à l'immensité de la tâche à accomplir pour sauver notre belle planète. Mais puisqu'un seul ver de terre peut sauver tout un jardin, pourquoi nos simples gestes mis bout à bout ne pourraient-ils pas changer tout l'avenir de l'humanité ? Si le sentiment d'être impuissant nous noie dans le pessimisme, son meilleur remède pourrait bien être l'action. Une action engagée, aussi discrète qu'efficace, aux effets d'entraînement incommensurables. Et si on commençait aujourd'hui ? Je suis Cléa, autrice culinaire et exploratrice de solutions pour un avenir plus vert. Pour m'aider à cheminer, je suis partie à la rencontre des acteurs de l'écologie que sont les auteurs des éditions Terre Vivante. Ces femmes et ces hommes nous permettent de remplir une magnifique boîte à outils, 100% recyclée et recyclable, avec des gestes et des pratiques vertueux qui nous redonnent les pleins pouvoirs et l'optimisme qui va avec.
Celles et ceux qui ont la chance d'avoir visité les jardins de Terre Vivante ont sans doute fait la connaissance de Guylaine Degnaud, guide et animatrice au Centre écologique, mais aussi autrice du livre « Les enfants, vous venez jardiner » aux éditions Terre Vivante, bien sûr. Bonjour Guylaine.
Bonjour.
Alors Guylaine, votre métier c'est animatrice nature. Qu'est-ce qui vous a amené jusque-là ?
Alors mon métier d'animatrice nature m'est venu au moment de mes études où j'ai fait des études en environnement et notamment je me souviens avoir visité une déchetterie et le constat c'était que les gens ils ne triaient pas leurs déchets ou pas bien. Et je me suis posé la question de savoir comment les gens étaient informés là-dessus, c'était il y a longtemps hein, déjà, une vingtaine d'années à peu près. Et j'en suis venue à me dire que ce qui me plaisait, moi, c'était de transmettre, plutôt de sensibiliser le public pour qu'il puisse avoir les clés pour pouvoir agir. J'ai découvert le métier d'animateur nature un peu par hasard. Et là, ça m'a beaucoup plu. Donc, j'ai acquis des connaissances autour de la nature, commencé à faire des animations avec les enfants. Et puis voilà, j'ai fini par arriver plus sur le jardinage et ce qu'on appelle l'écologie pratique à Terre Vivante. L'éco-construction, tous les gestes autour de la gestion de l'eau, des économies d'eau, tout ce qu'on peut faire chez soi pour protéger l'environnement et la nature, qui me paraissaient des choses plus concrètes et notre entrée vers le lien à la nature.
Alors, vous emmenez les visiteurs à la découverte de toutes les thématiques de Terre Vivante, donc le jardinage, mais aussi l'éco-construction, la gestion de l'eau. Et les publics que vous accueillez sont très divers, des groupes de scolaires aux simples particuliers, en passant par les seniors et les jardiniers confirmés. Qu'est-ce que chacun vient chercher ici ? Est-ce que c'est différent à chaque fois ?
C'est différent à chaque fois, oui, parce que, évidemment, selon les publics, il y a différentes attentes. Beaucoup de jardiniers, de gens qui viennent chercher des informations sur le jardinage, des jardiniers aguerris, des jardiniers débutants, qui veulent savoir comment on fait pour jardiner sans produits chimiques, tout en ayant un beau jardin qui produit quand on fait un potager. Pour les enfants, c'est un peu différent. Il y a les enfants qui viennent ici dans le cadre plutôt de leurs loisirs, avec leurs parents, le centre de loisirs. Également, les enfants qui viennent avec l'école. Donc, c'est parfois l'envie de passer un moment dans la nature, dans un espace aménagé, mais de nature, ce qui est le centre Terre Vivante, et aussi l'envie de découvrir de nouvelles choses. Donc, c'est pour ça que nous, on propose pas mal de petites animations différentes qui permettent de passer des bons moments en famille ou avec d'autres enfants dans le centre de loisirs. Et pour les scolaires, c'est plus une ouverture. Ils viennent plutôt pour l'aspect pédagogique donc avec la transmission de savoirs qui sont liés aux attentes des enseignants et des programmes. Et là, nous, on essaye de créer ce que moi j'appelle la Madeleine de Proust. C'est l'idée de créer un souvenir positif qui restera toute notre vie. Et bah, je me souviens par exemple d'une enseignante qui est venue en disant « Est-ce que cette fois vous allez faire la tisane ?» La tisane, oui, pourquoi ? Donc souvent en animation, on fait une petite tisane avec des plantes aromatiques et on fait deviner par exemple quelles plantes sont mises dans la tisane. Et elle me répond, la dernière fois que je suis venue, donc c'était il y a longtemps, j'étais avec ma fille, et on avait bu une tisane, et elle qui ne buvait jamais de tisane, depuis elle en boit. Et elle avait trouvé ça génial, quoi. Donc c'est des petites choses toutes simples qu'on fait en animation, mais voilà, créer le petit souvenir qui va rester toute notre vie. Alors, j'invite souvent les gens, quand je travaille avec des adultes qui veulent jardiner avec les enfants, à se remémorer, eux, les souvenirs qui sont restés de leur enfance en lien avec le jardin ou en lien avec la nature, et à essayer, eux, de devenir le créateur de cette Madeleine de Proust.
J'imagine en tout cas que les enfants aiment être ici à Terre Vivante et découvrir les jardins, que ça leur plaît.
Les enfants, ils adorent les jardins ici, parce que c'est pas que des jardins, c'est aussi un endroit avec de la nature. Nous, la façon dont on conçoit le jardin ici, c'est pas seulement un jardin, c'est aussi un lieu qui accueille la biodiversité. C'est un lieu assez riche au niveau biodiversité. Et donc, il y a plein de choses à voir. Ils sont émerveillés en général par les papillons, les libellules, les crapauds qui sont dans la mare, tout le foisonnement d'abeilles, d'insectes qu'il peut y avoir ici, et d'oiseaux aussi. Et donc ça, c'est souvent ce qu'ils en retiennent, en fait. C'est que ce sont des jardins avec des légumes, donc ils ne connaissent pas toujours à quoi ressemble une carotte, parce que voilà, ils n'ont jamais vu la carotte, elle est sous terre, on ne la voit pas, ils n'ont jamais vu les feuilles. Mais ils ont aussi cette première entrée-là, qui est souvent la plus importante et que nous, on utilise beaucoup ici pour créer cette Madeleine de Proust. C'est, même avec les adultes, cette découverte d'un environnement riche et foisonnant comme devraient être tous les jardins.
Alors, retour à la maison maintenant. En revanche, là, je me remets plutôt dans la peau du parent. Jardiner avec ses enfants, c'est pas toujours aussi facile qu'on peut l'imaginer. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se trame dans la relation jardin-parent-enfant ?
Ah, la relation jardin-parent-enfant, c'est un vaste sujet, puisque c'est déjà la relation parent-enfant qui a ses avantages, mais parfois aussi ses petits inconvénients. Donc on est là-dedans, on crée du lien entre notre enfant et nous-mêmes quand on jardine avec notre enfant. Mais il y a aussi la relation qu'on peut avoir avec son enfant qui peut être parfois un peu compliquée. Donc il ne faut pas être trop exigeant quand on veut jardiner avec ses enfants. Il y a des enfants qui très naturellement vont prendre plaisir à prendre en main une petite parcelle de jardin et qui vont la tenir jusqu'au bout. D'autres enfants qui seront séduits par l'idée, qui vont démarrer. Et puis le quotidien d'un jardin, c'est aussi des petites choses, des petits gestes qui sont parfois un peu fastidieux et que du coup, ils ne vont pas forcément prendre en main de A à Z. Ils vont parfois l'oublier. D'ailleurs, c'est pour ça que je conseille, moi, que le jardin d'un enfant ou sa petite parcelle ou son petit bac soit plutôt sous ses yeux, quelque part pas loin de la maison. Moi, personnellement, j'ai un jardin qui est à quelques centaines de mètres de ma maison. Et à chaque fois que j'ai essayé avec les enfants de mettre en place quelque chose, ils l'ont assez vite oublié. Les enfants, ils ont aussi, selon leur âge, un temps de concentration plus ou moins important. Donc, en fonction de leur intérêt, ils vont peut-être décrocher sur certaines activités assez rapidement. Et là, l'idée, c'est pas d'en faire une catastrophe en disant « tu dois tenir jusqu'au bout », parce que sinon, c'est un endroit et une activité à laquelle ils n'auront pas forcément envie de revenir. Donc, avoir du lâcher-prise vis-à-vis de ça en tant que parent. Et ne pas hésiter à faire des petits bouts sans eux, c'est pas très grave si on fait des choses à leur place. À moins que le contrat, au départ, ça a été qu'ils doivent faire des choses de A à Z. Mais ça, c'est pour les enfants les plus grands, quand ils ont plus de 10 ans. Avec des jeunes enfants, on va plus être sur des petites activités. Et là, il y a l'acte de jardinage qui est important pour les adultes, mais là, c'est aussi tout l'intérêt de l'aménagement du jardin, qui est une bonne base pour que l'enfant puisse continuer à rester au jardin sans que ça soit forcément l'activité de jardinage.
Oui, on peut lui aménager des zones un peu spécifiques, dont nous, en tant qu'adultes, on n'aurait pas forcément eu besoin.
Des zones ou du matériel, les zones cabanes, pas loin du jardin, le matériel d'observation pour pouvoir, dès qu'on trouve une petite bête...
Une loupe, par exemple, des choses comme ça.
Nous, on aime beaucoup les boîtes loupes à l'animation. Ça marche très bien avec les enfants, c'est une petite boîte avec une loupe dessus et qui, en général, ils adorent ça. Ça peut être du matériel assez basique, mais un peu plus coûteux, comme des loupes binoculaires qui permettent de voir des choses d'un petit peu plus près. Et là, on s'ouvre à un monde assez extraordinaire. Les petites bêtes qui sont dans le compost, par exemple, les collemboles qui sont des bêtes minuscules et qu'on peut voir facilement avec une loupe binoculaire, pas un matériel très coûteux. Mais en tout cas, la loupe de base, déjà, c'est un bon matériel. Et puis des boîtes, différentes boîtes. La boîte à trésors aussi, ça, c'est quelque chose que je conseille vivement. Dès qu'on trouve un petit trésor, une noisette grignotée par une petite souris, on peut mettre ça dans la boîte à trésors et on fait une petite collection comme ça. Donc ça, c'est des petites choses qu'on peut mettre en place facilement. Les coins cabanes, il peut y avoir aussi des petites zones d'observation, le coin sur la biodiversité, ou les coins, les espaces sur la biodiversité, avec des aménagements, on va pouvoir observer des choses en particulier. Ils savent, par exemple, ils peuvent apprendre à découvrir la vie qu'il peut y avoir dans un compost ou dans un tas de bois, où là, il y a toujours des petites choses à trouver. Pour ça, il faut aussi que l'adulte il soit à l'aise avec ces choses-là, pour pouvoir amener l'enfant à découvrir ces petites bêtes, à les toucher petit à petit, si ce n'est pas évident pour eux au départ. C'est une autre question importante aussi qu'il faut se poser. C'est nous, en tant qu'adultes, comment on se positionne par rapport à la nature. Ça va permettre d'amener l'enfant vers cette découverte, parce que nous, on l'observe beaucoup ici, quand on accueille des groupes d'enfants. La difficulté pour eux, c'est de toucher les petites bêtes, alors tout en faisant attention, bien sûr, toucher les petites bêtes, de toucher la terre, toucher le compost, tout ça, c'est des choses qui sont pas évidentes pour tous les enfants, mais souvent, moi j'observe quand même que souvent c'est plutôt les adultes qui ont influencé ça. L'enfant, naturellement, il a envie de toucher, de manipuler. Mais à force de s'entendre dire « touche pas ça, c'est sale, touche pas ça, tu vas te faire piquer », ils osent plus, quoi.
Donc en tant que parent, ça nécessite pas mal de lâcher prise, mais peut-être aussi un peu d'organisation. Comme j'imagine quand on cuisine avec un enfant, on essaie de s'organiser un petit peu, par exemple de peser les ingrédients avant, de tout avoir, être sûr de bien tout avoir sous la main. Est-ce que pour le jardin, il faut procéder un petit peu comme ça aussi ? Est-ce qu'il faut avoir des outils qui lui sont spécifiquement destinés, des zones qui lui sont spécifiquement destinées ?
C'est bien en tout cas que le matériel soit facilement accessible pour lui. Quand on construit une cabane de jardin, on a tendance souvent à pendre les outils un peu à hauteur d'adulte. Et l'enfant, il ne pourra pas être autonome là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose à réfléchir en amont. Si on veut jardiner avec les enfants, le matériel... Si possible, il doit être tout prêt et à hauteur d'enfant. Ça peut être des caisses, hein, si on n'a pas une cabane de jardin. Mais ça, c'est déjà quelque chose qui va permettre à l'enfant de participer facilement, de ranger facilement aussi, donc de participer vraiment de A à Z. Avec des jeunes enfants, effectivement, on aura besoin de davantage préparer l'activité.
Est-ce qu'il y a besoin d'outils spécifiquement destinés aux enfants ? Ou est-ce qu'on peut leur confier quand même les outils du jardinier, certains outils du jardinier ?
Alors, moi je trouve que c'est plus facile et c'est ce qu'on utilise ici, les outils, les petits outils à main. Dès qu'on jardine avec des outils à main, c'est plus facile pour les enfants parce que déjà les manches d'outils de jardinier en général, ils sont beaucoup trop longs pour des enfants, mais on peut les couper. Mais c'est pas simple. Déjà, ils sont en plein apprentissage de la motricité. Alors si en plus on rajoute un manche assez long, bah ça peut, le geste il devient beaucoup moins fin. Donc les outils à main, c'est pas mal. Je préfère conseiller des outils plutôt que les outils en plastique spécifiquement enfant, mais plutôt des outils pour adultes. On apprend à utiliser des vrais outils. Ça, c'est quelque chose que je trouve plus facile à utiliser. En plus, c'est plus solide. Donc, on peut les garder longtemps. Après, il faut penser aussi que l'enfant, il n'a pas la même force qu'un adulte. Donc, par exemple, l'arrosoir, c'est pas la peine d'avoir un gros arrosoir parce qu'ils ne pourront pas le porter. Même un arrosoir de 6 litres, hein, c'est déjà beaucoup pour eux. Donc on est plus sur des bouteilles ou sur des petits arrosoirs à taille d'enfant. Les petits arrosoirs de... Il y en a certains qui font 3 litres, par exemple, ça commence à être plus facile pour eux. S'il y a un point d'eau accessible pour qu'ils puissent arroser facilement, ça c'est une activité aussi facile à mettre en place avec les enfants.
Oui, c'est pas forcément évident de se mettre dans la peau d'un enfant quand on est un adulte, mais il y a certains gestes, peut-être il y a des petites astuces qui peuvent les aider à intégrer certains gestes ou à réussir certains gestes au potager que nous on fait presque sans y penser finalement, mais qui sont difficiles pour eux.
Ouais. C'est compliqué pour les enfants, souvent on se rend pas compte que ouais, notre force est vraiment très différente. Par exemple, creuser un trou pour repiquer des plantes dans la terre, c'est souvent ils ne creusent pas assez et il faut les encourager à creuser davantage. Moi, je conseille pour ça, par exemple, de creuser le trou, de poser la plante dedans pour voir si elle rentre et si, quand on pose un petit bout de bois au-dessus de la terre, est-ce qu'il va être au-dessus de la plante, enfin au-dessus du pot de la plante ou pas. Et puis, il ne faut pas hésiter à les aider. Pour les plus jeunes enfants, ils auront du mal à aller jusqu'au bout. Ça dépend de la terre qu'on a, mais même avec de la terre meuble, ça peut être difficile pour eux. Et après, c'est vrai que tout ce qui est semis, c'est difficile pour eux aussi de savoir combien de graines il faut mettre. L'éloignement entre les graines est compliqué. Avec les jeunes enfants, moi, j'aime bien utiliser plutôt des grosses graines comme les fèves, les petits pois, les capucines, qui sont plus faciles à manier. Ensuite, avec un petit bâton, on peut mesurer l'écartement pour pouvoir avoir une graine qui est semée de manière régulière. Après, il ne faut pas être trop exigeant non plus sur le résultat qu'on attend d'un jardin qu'on va faire avec un enfant, parce que de toute façon, il y aura des loupés. Un paquet de graines qui a été tout semé au même endroit et puis toutes les plantes vont lever au même endroit. Et ça, c'est pas très grave, quoi. Voilà. Être moins exigeant et encore une fois, le lâcher prise, effectivement.
Ouais, je crois que c'est le leitmotiv. Et est-ce que quand l'enfant fait de travers, est-ce qu'il faut réparer? Est-ce qu'il faut le laisser prendre conscience des conséquences de ses actes?
Alors là, il n'y a pas une réponse toute faite à ce genre de questions. C'est un peu chaque adulte qui voit. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si on est trop exigeant et qu'on repasse trop derrière les enfants, il y a des chances qu'ils se désintéressent assez rapidement de l'activité, parce que ça ne sera plus vraiment son jardin. Et ça pourra même être l'occasion de conflits supplémentaires. Donc moi, j'aurais plus tendance à conseiller de voir comment si ça se passe, si ça a été, entre guillemets, mal fait, pour que l'enfant voit le résultat et comprenne pourquoi il fallait faire autrement. Voilà, après, il faut aussi adapter en fonction de l'âge de l'enfant. Si on jardine avec un enfant de 2 ou 3 ans, hein, ce qui est possible, lui, il ne verra pas d'inconvénient à ce qu'on repasse derrière. Et puis, il y a des enfants qui sont plus flexibles que d'autres aussi.
Quelles sont les méthodes éducatives sur lesquelles vous vous basez dans le cadre de vos animations? Est-ce qu'il y a une théorie particulière ou un auteur en particulier là derrière?
Alors nous, on travaille beaucoup avec les pédagogies actives. On essaye de transmettre les informations alors actif au sens action et actif aussi au sens activité. Quand on transmet par exemple une théorie sur... par exemple, les chaînes alimentaires. Donc, on essaye d'expliquer les chaînes alimentaires. On fait des petits jeux avec des images qui vont mettre en scène les enfants, qui vont devenir des petites bêtes. Et on va avoir des jeux comme un jeu qui s'appelle Prédateur-proie, où les prédateurs vont attraper les proies. Donc les enfants se transforment en prédateurs ou en proies et ils s'attrapent les uns les autres. Ça, d'ailleurs, c'est un jeu qui nous vient d'un pédagogue américain qui s'appelle Joseph Cornell, duquel on est très inspiré ici pour travailler nos animations. C'est un pédagogue qui a écrit des bouquins dans les années 70. Donc, il y en a un qui s'appelle « Joie de la nature » et un autre qui s'appelle « Vivre la nature avec les enfants ». Et lui, il a mis au point une méthode qu'il appelle la méthode progressive, qui se passe en quatre étapes. Une étape où on va créer l'enthousiasme. Donc, première étape, où on va faire, par exemple, un petit jeu où l'enfant va prendre contact avec l'adulte et se dire qu'il va passer un chouette moment. Une autre étape où on focalise l'attention, parce qu'après s'être bien amusé, ben, il va falloir se concentrer sur ce qu'on va découvrir. Une troisième étape où là, on va expérimenter, on va faire, on va toucher, manipuler ou découvrir avec les cinq sens. Et puis, une quatrième étape où on va se recentrer par un petit bilan, se remémorer ce qu'on a fait, soit de manière individuelle, soit de manière collective. Sachant que ce qui se dit beaucoup, notamment avec les neurosciences aujourd'hui, c'est que le fait de redire, de resynthétiser ce qu'on a retenu à d'autres, bah, ça permet aussi de les retenir davantage. Donc ça, c'est notre fil conducteur. Après, des fois, on en sort. Mais en tout cas, on essaye autant que possible d'être dans l'action, dans le faire.
En tout cas, c'est un très bon guide pour les parents. Est-ce que ça vaut le coup de proposer, par exemple, un petit carnet de tenue du jardin que l'enfant pourrait agrémenter lui-même ?
Oui, ça, c'est une possibilité, tout à fait. Quand on a un petit jardin, on peut mettre en place, si c'est un enfant qui aime bien écrire ou dessiner, ou les deux, il peut tout à fait faire son petit journal de bord et à chaque fois qu'il va aller au jardin ou qu'il va observer une nouvelle chose, il va pouvoir l'écrire dans son carnet.
Alors, quelles sont les plantes que vous pourriez nous conseiller, le côté plante qui réussit à tous les coups, les plus ludiques aussi à jardiner ?
Au niveau des plantes que je conseille, effectivement, on est plutôt dans la réussite. Du coup, il y a des plantes qui fonctionnent bien quand on les sème et d'autres qu'on réussit moins bien parfois quand on les sème. Donc, si on n'est pas un jardinier vétéran et aguerri, des fois, il faut préférer plutôt des plants. La plante, par exemple, que je ne conseille pas, mais qui est intéressante, c'est la carotte, parce que le semis est très compliqué. C'est pour comprendre pourquoi il y a des plantes qu'il vaut mieux éviter. Par contre, si on fait des fèves, c'est une plante qui est peu connue, enfin, un légume qui est peu connu, mais qui marche bien. Le radis, lui, il lève à tous les coups, mais alors pour l'avoir pas trop piquant, c'est pas forcément facile. Il va falloir l'arroser beaucoup. La capucine chez les fleurs, ça marche bien. Et en plus, on peut manger les fleurs. Donc ça, c'est aussi une plante qui fonctionne bien pour les enfants. Après, on peut difficilement se passer de la tomate, plutôt la tomate cerise, parce qu'on va pouvoir la grappiller au jardin. Et là, on va plutôt choisir un plant qu'on va repiquer en pleine terre. Parce qu'on aura plus de chances d'avoir un joli plant qui va bien pousser. Toutes les salades, les haricots aussi, ça fonctionne bien. Et puis, il ne faut pas hésiter à aller voir un jardinier qui habite pas loin de chez nous pour savoir ce que lui fait et ce qui fonctionne bien chez lui. Parce que selon les climats, bah, c'est pas toujours pareil. Si on habite en Bretagne, on réussira mieux les choux que si on habite dans une partie un peu plus sèche. Donc voilà, ça dépend vraiment, mais faut pas hésiter. Alors le chou,
peut-être préférer les fraises.
Voilà, c'est vrai que la fraise a plus de succès en général. C'est d'ailleurs la fraise que les enfants citent comme plante qu'ils voudraient mettre au jardin en premier, qui est pas toujours facile à réussir. Le chou, c'est pas mal. Moi, j'aime bien conseiller le chou rouge parce que après, on peut faire de la peinture avec.
Ah oui.
Ouais, c'est même une plante qui permet de faire trois couleurs différentes parce qu'on va mixer des petits bouts de chou rouge. Ensuite, on va garder le jus et puis avec l'acidité, la couleur de ce jus va changer. Donc on peut mettre du vinaigre pour obtenir du rose, parce qu'au départ on a du bleu, et on peut mettre de la cendre pour obtenir du vert. Et là on a trois couleurs. Donc ça devient assez magique. Et nous, c'est une activité qu'on propose ici à Terre Vivante, c'est les peintures de légumes. Et c'est assez génial parce que ça arrive souvent que des enfants se mettent à goûter le chou rouge parce qu'ils l'ont coupé en petits morceaux avant de le mixer et qu'ils y prennent du plaisir. Et parfois, il y a des parents qui accompagnent les groupes d'enfants et qui disent « Mais il n'a jamais voulu goûter ça à la maison, c'est incroyable !» Donc, voilà, il peut se passer des choses comme ça aussi quand on utilise ce genre d'activité.
Ouais, c'est super. Et en hiver, quand le jardin sommeille, qu'est-ce qu'on peut proposer comme activité aux enfants pour qu'ils ne l'oublient pas, qu'ils restent en lien avec lui ?
Alors, l'hiver, c'est plutôt effectivement une période où on va faire moins de choses au jardin. On est sur une bonne période pour pouvoir travailler sur les graines. Le toucher avec les graines, c'est vraiment des sensations assez sympas. Des petits collages, des odeurs, des choses comme ça. Après, tout ce qu'on a récolté, on peut aussi l'utiliser pendant l'hiver. Si on a fait pousser des citrouilles, eh bien, ça va être l'occasion à Halloween d'utiliser les citrouilles. On a aussi les observations qu'on va pouvoir continuer à faire en hiver. La grosse observation qu'on peut faire en hiver, c'est sur la mangeoire. Si on fabrique une mangeoire ou si on en achète une, on met des graines de tournesol et là, tous les jours, on va pouvoir voir un balai d'oiseaux intéressant. Donc ça, c'est une activité qu'on peut faire facilement en hiver. Après, il y a quand même beaucoup moins de choses globalement à faire en lien avec le jardin en hiver, mais on peut continuer à y aller aussi. On peut continuer à y aller régulièrement, observer s'il gèle, on peut observer que l'eau, elle est gelée, qu'est-ce que c'est que la glace. Voilà, il y a encore plein de découvertes à faire en hiver. C'est aussi l'intérêt d'avoir un jardin qui est aménagé pour y passer du temps, comme dans les cabanes, quoi, par exemple.
Et pour les petits jardiniers urbains, c'est un petit peu plus difficile avec un simple balcon. Est-ce que vous avez quelques quand même petites astuces pour eux ?
Oui, sur le balcon, on va jardiner dans des pots. C'est moins un jardin tel qu'on le conçoit, mais on peut faire des observations intéressantes aussi. Puis même en plein hiver, d'ailleurs, on va pouvoir faire pousser des graines qu'on va manger après, les graines germées. Donc ça, c'est aussi une activité qui peut être en prolongement du jardin. Et dans des grosses jardinières, on peut faire pousser pas mal de choses. C'est à condition qu'on ait un balcon, bien sûr. Et puis continuer à aller aussi dans des parcs, se promener avec les enfants ou dans la nature.
Tout ça donne très envie de voir revenir les beaux jours et de démarrer un projet de jardin en famille, en tout cas, en pleine terre ou sur un balcon. Alors pour les plus motivés, vous proposez des formations à partir du printemps, ici, à Terre Vivante. Est-ce qu'elles sont ouvertes à tous, parents ou enfants, ou les deux ?
C'est des formations qui sont ouvertes à tous. On a beaucoup de gens qui viennent dans le cadre de la formation professionnelle, donc des formations pour apprendre à jardiner avec les enfants. Mais il nous arrive aussi d'avoir des parents. Dernièrement, par exemple, on a eu une personne qui a suivi une formation parce qu'elle voulait prendre en main un jardin à la crèche de son enfant. Donc c'est tout à fait ouvert à tout le monde. Ouais. On apprend et à jardiner et les activités qu'on peut mettre en place dans et autour du jardin.
Et bien sûr, tout le monde est bienvenu cet été pour visiter le centre Terre Vivante avec ses enfants.
Oui, tout à fait. On est en train de concocter un petit programme pour les familles. Et puis, on propose aussi des activités comme la visite dont vous êtes le héros, sur le principe des livres dont vous êtes le héros, pour pouvoir découvrir les lieux de manière ludique.
Super, merci beaucoup, Guylaine.
Eh bien, de rien. Merci à vous.
Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Champ d'Action sur le site champdaction.org ainsi que sur les principales plateformes de podcast. Champ d'Action est le podcast de Terre Vivante, maison d'édition et centre écologique qui se lit autant qu'il se visite. Pour être tenu au courant de la diffusion des prochains épisodes, suivez-nous sur les réseaux sociaux avec les mots-clés Champ d'Action Podcast. À bientôt !